retrouve-moi rue des étoiles, la deuxième après Jupiter. Je connais un endroit pas mal d'où on peut voir tout l'univers. Retrouve-moi rue des étoiles. Bonjour à vous et bienvenue dans cette sixième émission des Nouvelles du Ciel. Et je suis actuellement en studio avec Jacques Sanchez du Balcon des Étoiles, accompagné de Jordan. Messieurs, bonjour.
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 Il s'est encore passé plein de choses en ce mois de février et en ce mois de mars. En particulier, Jacques, on va venir tout de suite sur la rencontre qu'il y a eu avec Sylvie Vauclair le samedi 4 mars. Comment ça s'est passé ?
Ça s'est très bien passé. C'est vrai que Sylvie nous a fait la gentillesse de venir nous trouver à l'occasion donc de la projection d'un documentaire qui s'intitulait « Le Big Bang, l'appel des origines », où elle a participé à élaborer donc ce documentaire. Donc Sylvie Vauclair, je le rappelle, est astrophysicienne, professeure émérite à l'université Paul Sabatier, musicienne, écrivaine. Nous avons passé une soirée en compagnie de 40 personnes et c'était vraiment très intéressant. Le documentaire, un débat a suivi le documentaire. D'où venons-nous ? Les questions que tout le monde se pose, en fait, en remontant notre passé, l'origine de la vie, l'origine de l'univers. Et donc, on a remonté comme ça avec ce splendide documentaire, c'est vrai qu'il dure une cinquantaine de minutes, mais qui nous fait remonter dans le temps jusqu'à quelques 0,000004 millièmes seconde avant le début. Parce que la science explique très bien, du coup, tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Après, c'est vrai que l'origine, le point d'origine est quand même encore une énigme, on va dire, où la science ne raisonne plus, en termes de calcul, de scientifique, physique. Bon, le Big Bang, l'appel des origines, nous permet d'imaginer, de rêver, on va dire. Et après, donc, nous sommes quand même à la base des observateurs du ciel, quoi. Voilà, nous essayons d'alterner entre des soirées comme ça où on peut débattre, poser des questions effectivement intéressantes et puis réfléchir surtout. Et après, les prochaines soirées, la prochaine soirée du moins sera beaucoup plus observationnelle où on s'investit un petit peu.
Et on en reparlera en fin d'émission. C'est le mois de mars, c'est le moment de l'équinoxe de printemps aussi.
Eh oui, l'équinoxe de printemps arrive. Alors pour rappeler ce que c'est que l'équinoxe de printemps, le soleil, on le voit tout au cours de l'année, le soleil passe par plusieurs zones dans notre ciel, quoi, on va dire. Donc on sait qu'en été, il fait chaud parce que le soleil est très haut dans le ciel, jusqu'au mois de juin où on atteint le solstice donc d'été. Après, il redescend tranquillement dans l'équinoxe donc d'automne. Vers le 20 décembre, nous avons eu le soleil au plus bas dans notre ciel, c'était le solstice d'hiver. Et là, le soleil, depuis ce jour-là, donc remonte petit à petit, puisque là, nous gagnons à peu près 4 minutes de soleil par jour. Et le soleil, là, remonte donc dans notre ciel et finit par croiser dans sa montée de notre équateur, enfin l'équateur céleste, on va dire, la projection de l'équateur de la Terre. C'est donc là une position du soleil particulière pour les scientifiques, puisque c'est le moment où, en fait, où il a une latitude qui est égale à zéro, puisqu'il est sur l'équateur, et une longitude également égale à zéro. Pour nous, alors qu'est-ce que nous constatons ? On ne nous dit pas que la latitude du soleil est égale à zéro, ni que la longitude est égale à zéro, on ne le sait pas. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que c'est le seul jour de l'année, avec l'équinoxe d'automne donc, où le soleil se lève pile à l'est, et se couche à l'ouest. Et c'est aussi le seul jour de l'année où nous avons 12 heures de jour et 12 heures de nuit équivalentes.
Ces différences de durée jour-nuit, c'est parce qu'on est, nous, excentrés par rapport à l'équateur. Lorsqu'on est sur l'équateur, il y a pratiquement 12 heures de jour, 12 heures de nuit.
Plus ou moins, parce que même sur l'équateur, le soleil bascule d'un côté et bascule vers le nord et bascule vers le sud aussi. Vu l'inclinaison de la Terre. Mais bon, après, plus on se rapproche de l'équateur et plus l'écart est faible. Nous, ici, effectivement, depuis nos latitudes, on voit que entre le jour en été qui dure 15 heures et le jour en hiver, il y a une bonne différence quand même.
Le fait que cette latitude du soleil soit à zéro tout le temps, ça a aussi une incidence sur les marées?
Alors, on va dire que sur les marées, c'est sûr, parce que ce sont les marées d'équinoxe. Les marées basses et les marées hautes sont vraiment importantes. Parce qu'en fait, c'est le point où le soleil, ou on va dire, où la Terre est alignée avec le soleil. Mais pour peu que la Lune donc soit alignée sur cet ensemble-là, on trouve sur une même ligne le soleil, la Terre et la Lune. Ou le soleil, la Lune et la Terre. Et donc là, forcément, les attractions des deux corps de la Lune et du Soleil se conjuguent et donc vont occasionner des marées très importantes. Alors, c'est le début du printemps aussi, bon, l'équinoxe de printemps pour nous, donc il aura lieu le 20 mars 2022, donc le dimanche 20 mars 2022, à 15h33min 26,14 secondes. Et en plus, il y a un temps universel, donc il faut faire attention que chez nous, ce sera une heure de plus, donc 16 heures.
On va parler maintenant des lumières zodiacales. De quoi s'agit-il ?
Une caractéristique de cet équinoxe de printemps, en fait, ou cette phase de printemps, c'est que si vous avez l'occasion d'observer par une nuit sans lune, alors là, au mois de mars, donc du coup, il va falloir attendre la fin du mois, puisque la lune est croissante actuellement. Et vers la fin du mois de mars, nous avons, dès le coucher du soleil, vers 19h à peu près, vous attendez une petite heure, tranquillement installé, avec une vue sur l'horizon ouest. Et si vous êtes assez loin des lumières des villes, vous verrez dans le ciel, côté ouest, une lumière en fait en forme de cône, qui s'élève donc sur cet horizon. Et cette lumière, c'est ce que les astronomes appellent la lumière zodiacale, puisque ce sont toutes des particules de poussière dispersées entre les planètes, en fait, sur le zodiaque, qui sont éclairées par le soleil qui vient de se coucher. Ces particules, donc, nous reflètent la lumière du soleil, nous renvoient la lumière du soleil, et nous tracent dans le ciel cette trace, en fait, blanchâtre de lumière, qui est quand même, qui dure, on va dire, une heure après l'heure d'observation donc du coucher du soleil. Quoi.
On va parler un petit peu maintenant spatiopolitique, je ne vais pas dire géopolitique, mais spatiopolitique avec Jordan.
Ben bonjour.
Spatiopolitique, parce qu'en fait le conflit actuellement entre les Russes et l'Ukraine a aussi des incidences dans l'espace.
Et oui, puisque du coup, les sanctions économiques prises donc par les pays européens, États-Unis, partout dans le monde, ont des conséquences effectivement aussi sur l'espace. Donc si on reste un petit peu plus en France pour commencer, la coopération donc spatiale entre l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale russe, les fameuses fusées Soyouz, ne partiront plus pour l'instant donc de la base spatiale à Kourou. Voilà.
Jusqu'à maintenant, en fait, pour précision, ces fusées partaient du Kazakhstan de Baïkonour ou alors de Kourou.
Voilà, de Kourou.
Pourquoi est-ce qu'elles partaient de Kourou ?
Alors, elles partent de Kourou parce que donc, le centre spatial guyanais, du coup, est le centre spatial situé le plus proche de l'équateur. Et donc, au niveau du spatial, lorsqu'on lance une fusée depuis l'équateur, on a la vitesse relative de la Terre qui aide à faire partir donc l'engin dans l'espace. Et donc, effectivement, de cette position-là sur l'équateur, une coopération était née entre donc les agences spatiales européennes et russes pour permettre donc aux Russes de faire décoller des Soyouz depuis Kourou et puis que les Européens puissent aussi utiliser le Soyouz pour pouvoir amener des satellites donc dans l'espace, ce qui était notamment aussi prévu avec la coopération OneWeb, où la fusée Soyouz a amené ses satellites dans l'espace. Et sur la dernière fusée préparée pour l'un des lancements donc de ces satellites, les Russes ont décidé donc de masquer les drapeaux de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon donc sur l'une de leurs fusées Soyouz, lié donc aux sanctions prises par tous ces pays dans le monde. Ensuite, nous avons donc le CNES et le CNRS en France qui ont décidé aussi de cesser les collaborations avec la Russie et aussi une mission très importante qui est très attendue aussi dans le monde du spatial, c'est la mission ExoMars, qui donc doit amener une sonde sur le sol de la planète rouge. Effectivement, une collaboration très importante, hein, puisque là, on avait sans doute une collaboration comme on ne l'avait jamais vue. Et donc, cette mission ExoMars, eh bien, devait partir de Baïkonour, au Kazakhstan, donc de la base spatiale de l'agence spatiale russe, à bord d'une fusée Proton. Mais du coup, les responsables de cette mission ont pour l'instant annoncé un lancement très improbable, en attendant maintenant d'en savoir plus, voilà. Et puis aussi l'ISS. Voilà,
c'est la question que tout le monde se pose dans la presse. Qu'est-ce qui se passe avec l'ISS? Parce qu'il y avait cette forte collaboration internationale au niveau de l'ISS. Alors, on en est où?
Alors, et oui, effectivement, donc le directeur de l'agence spatiale russe qui a posté un message, effectivement, qui, à part d'autres que la Russie, peut s'occuper de la gestion de la mobilité de l'ISS actuellement.
C'est-à-dire?
Alors, c'est-à-dire qu'actuellement, on utilise les cargos russes, donc qui vont ravitailler la Station Spatiale Internationale, pour remettre l'ISS sur son orbite de base, qui, sans ça, tomberait petit à petit sur Terre jusqu'à s'écraser sur Terre, puisque même à 400 km d'altitude, les quelques résidus d'atmosphère de notre planète freinent l'ISS, et sans notre intervention, l'intervention humaine, la station spatiale, effectivement, ne durerait pas très très longtemps, donc autour de la Terre.
C'était la charge des Russes, avec leur cargo, d'aller repousser un petit peu ou recentrer, voilà, ou resituer sur son axe l'ISS.
Voilà, alors c'est une mission qui a été, au cours des années d'existence de l'ISS, qui a été partagée il y a quelques années de cela. La France, avec l'Agence spatiale européenne, avec le cargo ATV, qui était un cargo qui partait aussi de Kourou, à bord d'Ariane 5, qui allait ravitailler l'ISS et qui s'occupait effectivement aussi de replacer l'ISS dans sa bonne orbite. Hein, donc c'est pas une mission qui a toujours été à la charge des Russes, mais pour l'instant, et comme on n'a pas d'autres possibilités de le faire en dehors des Soyouz, effectivement, donc pour l'instant, c'est Soyouz qui s'en occupe. Donc, par contre, suite à ce message du directeur de l'agence spatiale russe sur Twitter, nous avons un Américain très connu qui a répondu avec une image. Et cet Américain très connu, c'est Elon Musk, donc, qui effectivement a la question qui, en dehors de la Russie, peut s'occuper de la mobilité de l'ISS. Elon Musk donc a répondu avec un tweet, avec une image de SpaceX.
SpaceX qui est quand même utilisé de façon très commerciale aujourd'hui pour plein d'autres choses.
Voilà, SpaceX, donc, qui prend de l'ampleur. Effectivement, maintenant, les astronautes américains, dont notre astronaute national Thomas Pesquet a utilisé effectivement la capsule Crew Dragon pour partir dans l'ISS. Même les fusées Falcon 9 qui sont utilisées aujourd'hui pour envoyer des satellites de toutes sortes dans l'espace. Et puis, effectivement, la coopération entre SpaceX et la NASA pour le retour de l'homme sur la Lune, avec ce fameux Starship qui amènerait donc les astronautes à nouveau à se poser sur la Lune.
Voilà. Toutes ces machines américaines partent de Floride, c'est ça?
Voilà, de Cap Canaveral en Floride.
Donc on voit bien que les choses qui se passent sur Terre ont aussi des incidences sur l'espace maintenant.
Voilà, c'est lié, effectivement.
Il n'y a pas que les Français, enfin, il n'y a pas que les Européens, les Américains et les Russes, il y a aussi les Chinois qui sont dans le coup. Ils en sont où au niveau de l'espace, les Chinois?
Alors la Chine, comme pas mal d'autres pays qu'on appelle pays émergents, prend effectivement beaucoup d'ampleur par rapport à l'espace, se lance aussi dans la course à la Lune, il faut le savoir, et est en train, par exemple en ce moment même, de compléter petit à petit leur cinquième ou troisième station spatiale, rien qu'à eux. Voilà, il n'y a qu'eux qui peuvent y aller. Alors pour l'instant, très solitaire le spatial chinois. Et prennent de l'ampleur, donc effectivement, arrivent aujourd'hui à se placer parmi les pays spatiaux les plus puissants.
Et l'Inde?
Et l'Inde aussi, effectivement, qui aussi donc entre dans pas mal de collaborations aujourd'hui internationalement, et qui prend elle aussi donc de l'ampleur, et qui est capable, comme trois autres pays dans le monde, d'avoir la capacité de neutraliser des satellites en orbite autour de la Terre.
Ça commence à être un petit peu chargé, non, au niveau de l'orbite terrestre?
effectivement, il y a pas mal de monde qui se croise là-haut. Et on commence d'ailleurs aussi à réfléchir, jusqu'à présent du moins, à commencer à nettoyer un petit peu l'espace de manière un peu plus pacifiste, on va dire.
Tout ça, c'est fort intéressant. Je pense qu'on y reviendra dans des émissions futures sur justement ce qui se passe un petit peu en orbite autour de la Terre, entre les satellites de télécom, les choses plus ou moins habitées, et puis pourquoi cette limite des 400 km, pourquoi pas au-dessus, pourquoi pas en dessous. Je pense que ça serait intéressant qu'on y revienne ultérieurement. Merci beaucoup, Jordan, pour toutes ces explications
avec
sur cette géopolitico-spatiale. Jacques, ce mois-ci, il y a aussi le Marathon Messier.
Oui, en effet, le samedi, alors ce sera le 2 avril, le vendredi 1er et le 2 avril. Alors le marathon de Messier, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est pas du tout une compétition sportive de haut niveau, c'est pas les 43 kilomètres qu'il faut parcourir, mais les astronomes amateurs, en fait, ont décidé d'avoir aussi leur marathon, quoi, d'organiser leur marathon. Et nous, le marathon, nous le voyons plutôt à observer le plus grand nombre d'objets en fait dans le ciel. Alors quand on dit objets, ce sont des galaxies, des nébuleuses ou des amas d'étoiles qui ont été donc découverts pour la première fois au XVIIIe siècle par Monsieur Messier, qui a édité un catalogue de ces objets-là, quoi. C'était le premier catalogue d'astronomie qui a été édité. Et donc, ce catalogue est toujours d'actualité. On le trouve partout sur Internet ou dans des revues scientifiques. Il n'y a pas de problème. Et nous, donc, pendant cette période-là, pendant normalement une seule nuit, du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, l'idée, c'est d'observer avec nos télescopes, bien sûr, le plus grand nombre de ces objets. Puisque la période de printemps, en fait, le soleil est dans une zone du ciel où il ne nous gêne pas, en fait, pour observer tous ces 110 objets de Messier qui font de cette compétition, en fait, amicale, qui permet, en fait, aux astronomes amateurs de repérer des choses, de repérer des objets, de comparer un peu ce que l'on voit dans un télescope ou dans un autre. Voilà, c'est une compétition amicale, bien sûr.
Et pacifiste.
Et pacifiste, oui.
Et sinon, qu'est-ce qu'il y a comme activité ce mois-ci, au mois de mars, au Balcon des Étoiles?
Alors, le Balcon des Étoiles reste en activité, bien entendu. Donc, nous proposons dès samedi 12 mars là, un stage, le ciel à l'œil nu, qui intéresse des personnes qui veulent observer tout simplement le ciel avec une carte du ciel, des jumelles éventuellement, pour se familiariser avec tout. Les mouvements, les planètes, la Lune, pour pouvoir repérer certaines choses, pour s'orienter un petit peu, voilà. C'est un stage qui se passe l'après-midi et la soirée, qui intéresse, on va dire, le randonneur, le promeneur, celui qui a l'occasion de passer des nuits d'été à la Belle Étoile ou quelque chose comme ça, donc voilà. Là, il n'y a pas de manipulation de télescope. Les manipulations de télescope, ce sera plutôt pour les vacances d'avril. Il y a 3 jours... d'initiation, on va dire, où on propose le premier jour de l'initiation à l'utilisation d'instruments. Le deuxième jour, c'est découvrir des objets qui sont invisibles à l'œil nu. Et le troisième jour, c'est pour se perfectionner dans l'utilisation d'un télescope ou d'une lunette d'astronomie. Et après, sinon, tout simplement, il y a des soirées de découverte du ciel qui sont proposées, en règle générale, le vendredi et le samedi soir, à partir de 21h, donc au Balcon des Étoiles, où là vous passez en compagnie d'animateurs, donc au moins d'un animateur, la soirée.
Comment ça se passe?
C'est basé sur l'observation, donc voilà, ça commence par des explications avec une carte du ciel. On apprend un peu à se repérer tout en quelques minutes, quoi, je dirais, pour utiliser une carte du ciel, et après on va observer à l'œil nu à l'extérieur. Et puis après, on regarde ce qu'on peut voir dans un télescope donc, que l'on a sorti, qui sont à disposition donc, des personnes pour ces soirées-là, quoi.
Si je veux avoir toutes les informations, l'agenda, plus d'informations sur le Balcon des Étoiles, je fais comment?
Alors, je vais donc sur le site internet www.les-pléiades.asso.fr et vous trouverez donc toutes les, dans la rubrique « Nos offres ». Vous avez les soirées, les stages ciel à l'œil nu, les stages donc étoiles et toutes les informations utiles.
Et pour se rendre au Balcon des Étoiles?
Alors là, il faut suivre le GPS, se rendre au village de La Trappe, si l'on connaît, et nous sommes installés, on va dire, pratiquement en face de l'église, où on ne se rend pas compte, en fait, de la situation de ce village, mais c'est vrai qu'il y a une vue impressionnante sur la chaîne des Pyrénées. Déjà, on le voit quand on fait les coteaux du Volvestre, là, mais alors, quand on est dans ce village, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais dès qu'on a passé la rue principale avec les habitations, quoi, juste après, on a une vue, les Monts d'Olmes d'un côté, et puis la chaîne des Pyrénées qui s'étend jusqu'au-delà de Pic du Midi de l'autre, quoi, donc voilà.
Jacques, Jordan, merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
Et puis à très bientôt pour une prochaine émission des Nouvelles du Ciel.
Avec plaisir.
Un soir sur le bord du chemin, il y avait une étoile, je l'ai ramassée. Elle m'a souri au creux des mains, comme si c'était normal. Je crois qu'elle m'attendait.